compagnie des programmes de VO Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique à vous. Vous suivez VO Afrique. Eric Mandakiza avec vous. Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la 27e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a 27 ans, le dernier génocide se déroule du 7 avril 1994 jusqu'au 17 juillet. En 100 jours, cette tragédie fait plus de 800 000 victimes. 27 ans après, un rapport reconnaît des responsabilités lourdes et accablantes de la France, mais écarte sa complicité. Le président rwandais Paul Kagame a salué le rapport Duclert sur le rôle de la France dans le génocide de 1994 contre les Tutsis. Il a estimé qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qu'il s'est passé. Nous en parlons dans un instant. L'Amérique et vous reçoit le docteur Alice Urusaro Ouagaga Karekezi. Elle est chercheuse associée auprès du Centre pour la gestion des conflits et professeure à l'Université du Rwanda. Bonsoir, professeur Alice.
Bonsoir, cher Eric Manirakiza. Merci de m'avoir.
Une question de curiosité, Alice. Quelqu'un en conflit avec lui-même, est-ce que le centre peut le gérer? Autrement dit, pourriez-vous le gérer?
Nous nous chargeons des conflits armés. Pas des conflits métaphysiques, d'introspection.
Merci de votre précision. Notre deuxième invité, Ismaël Diallo, activiste et burkinabé, qui nous rejoint depuis Atlanta, ici aux États-Unis. Monsieur Diallo, bonsoir.
Bonsoir, comment va? Et bonjour à tout le monde.
Ça va très bien. Merci et bienvenue. Le professeur Jean-Pierre Karegeye va nous rejoindre plus tard dans ce débat. Alice, je vais commencer par vous. Le 7 avril marque toujours une certaine douleur, une douleur tout court dans la vie de la nation rwandaise.
Absolument. Les conséquences d'un génocide comme celui qui a été perpétré contre les Tutsis n'est pas une affaire d'un seul jour, mais nous tous reconnaissons, même 27 ans après les faits, que le 7 avril est un jour particulier. Le 7 avril, même en temps de pandémie, comme c'était le cas aujourd'hui, où les manifestations de commémoration étaient abrégées au plus strict, nous pouvions sentir dans les rues vidées, dans l'atmosphère, cette pesanteur de l'histoire que nous portons, que nous vivons tous les jours, mais que le 7 avril s'exprime de manière particulière.
Et quelles sont les activités qui sont prévues pendant tout un mois de commémoration?
Pandémie oblige, les activités ont eu lieu d'abord de manière symbolique, ce qui était une avancée par rapport à l'année dernière, ou vraiment réduit au plus simple, mais le président et son épouse ainsi que les hauts dignitaires du pays ont pu se rendre au mémorial de Guy Sozi où ils ont payé respect aux morts tout en allumant aussi la flamme de l'espoir. Et il y a eu aussi une cérémonie à Kigali Arena, qui est un espace sportif et culturel de la capitale, où on a pu rassembler un certain nombre des personnalités rwandaises, étrangères et surtout les survivants, mais où aussi des chansons qui accompagnent ont pu se faire entendre. Par ailleurs, toute cette période qui reste, il y a des conversations, des interviews, des entrevues à la radio, à la télévision, et comme d'habitude, nous avons toute une semaine de deuil où le drapeau est en berne, bien sûr, mais qu'aussi les activités festives sont bannies. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de recollections, il y a beaucoup de réflexions sur ce qui nous est arrivé. Et tout au long de la journée, la radio nationale essentiellement passe des chansons créées par des artistes qui ont focalisé sur le génocide. Donc la semaine de deuil s'observe comme d'habitude et les cœurs s'ouvrent avec cette cohorte de douleurs exprimées et des retraumatisations, mais nous avons pris l'habitude. Ce qui est peut-être important, c'est ce sentiment d'isolement, ce sentiment de rappel.
Monsieur Diallo, en tant que Burkinabé, qu'est-ce que vous ressentez chaque 7 avril?
Je suis absolument solidaire des Rwandais et j'ai eu l'avantage d'arriver au Rwanda les lendemains du génocide. J'y suis resté un peu plus d'un an. Et j'ai compris, à la différence de beaucoup de non-Rwandais, j'ai compris la frustration, disons même la colère des Rwandais après ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, il y a eu une indifférence de la part de beaucoup à travers le monde. Il y a eu un déni, bien entendu, et surtout en France, dans la France officielle. Et cela a fait beaucoup mal. Maintenant, avons-nous appris la leçon?
Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous avons Jean-Pierre Karegeye qui est déjà en ligne. Jean-Pierre, bonsoir et merci d'être avec nous.
Ce que je peux dire, en tant que citoyen rwandais, je ne peux que me joindre à mes compatriotes, en tant que aussi personne humaine, à me joindre dans ce drame, ce génocide contre les Tutsis qui a eu lieu en avril 1994. Ce que je pourrais dire, ça fait beaucoup la peine qu'aujourd'hui, 27 ans après, qu'il y ait des gens qui continuent à nier ce génocide. Et ce qui me fait rappeler d'ailleurs Omar Oscaro, cet archevêque qui parlait de la souffrance des humains. Il disait, il y a des choses qu'on ne voit mieux qu'avec des yeux qui ont pleuré. Et comme pour dire, il y a des choses que certainement on ne comprend pas et que seuls les rescapés peuvent sentir, comprendre et communiquer. Et donc c'est pourquoi je pense que les témoignages des survivants restent très très importants, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent nous parler ce qu'ils ont connu et ce qu'ils ont traversé en 1994 et les conséquences aussi. Et ce témoignage ou leurs témoignages en général sont très importants et je crois c'est ce témoignage sont très importants pour le Rwanda et pour le monde, pour que un événement comme celui-là, un génocide, ne puisse avoir lieu nulle part d'ailleurs au monde.
Alice, je reviens vers vous. Cette commémoration débute au lendemain de la sortie de ce rapport du CLER sur le rôle de la France dans le génocide de 1994 contre les Tutsis, un rapport commandité par le président français Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, s'agit-il d'un tournant de l'histoire?
Un tournant dans l'histoire, certainement, de la perspective de l'État français, qui a eu un rôle important et qui a peut-être, pour la première fois, qui est allé le plus loin possible dans la reconnaissance des responsabilités que l'État français, que les officiels français, en particulier son président de la République de l'époque, Monsieur François Mitterrand, mais pas seulement. Je crois que, d'un point de vue français, c'est un pas extrêmement important. Si on doit reconnaître que la France, officielle en tout cas, jusqu'à présent, a été très, très récalcitrante quand il s'agissait de son rôle au Rwanda. Pour ce qui concerne les relations franco-rwandaises au plan étatique, c'est aussi un pas, donc par implication, c'est un pas très important parce que il marque jonction importante dans un processus qui a commencé il y a quelques années déjà. Donc de ce point de vue, il est à saluer. Pour ce qui concerne les Rwandais, qui, comme Prof Karegeye faisait mention, il n'y a pas eu de ce qu'on appelle au plan journalistique de scoop. Donc, c'est une vérité qui est connue, c'est une vérité qui a été vécue, y compris dans la chair de ceux qui ont survécu.
Il y a un rapport rwandais qui doit venir incessamment.
Oui, il y a un rapport rwandais qui a été amorcé depuis quelques années aussi. Notons quand même en passant que depuis la connaissance de ce rapport ou de la confection de ce rapport, qui en principe devrait être publié pendant la troisième semaine de ce mois-ci, il y a eu quand même une halte de velléité, de révisionnisme au point de vue judiciaire. Vous vous rappelez comme moi qu'il y a eu des plaintes logées dans les juridictions françaises en l'encontre des plus hauts dignitaires de notre pays, le Rwanda. Vous savez qu'il y a eu des épisodes où une officielle rwandaise est allée s'est rendu en France et a été presque arrêté, etc., etc. Donc il y a eu cette turbulence là et ces essais de mettre sur le banc des accusés le Rwanda et ses officiels. Quand il y a eu, je note que quand l'annonce des premiers éléments du rapport rwandais ont commencé à voir le jour, il y a eu quand même une rétractation et il y a eu avec le rapport du Clerc cette avancée que nous saluons tous aujourd'hui. Mais comme diraient les personnes, les observateurs des faits rwandais ou des chercheurs, il y a très peu de faits nouveaux. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que il y a aussi des changements d'attitude. Dans la mesure où les langues se sont mises à se délier, en espérant qu'elles vont se délier davantage. Nous avons aussi remarqué que des personnes ont pu révéler des choses qui étaient connues, mais qui sont allées un peu plus loin. Nous avons aussi vu qu'il y a des officiels français, y compris l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, mettre un peu d'eau dans son vin. Pas suffisamment.
Il a fait son mea culpa.
Pas assez. Il était le ministre des Affaires étrangères. Non seulement ça, peut-être qu'il il avait son droit de réserve, mais jusqu'à présent, et particulièrement en 2016, il avait fait preuve d'une arrogance insultante à l'égard de la souffrance de ceux qui ont fait les frais du génocide contre les Tutsis. Donc, il faut voir des faits nouveaux. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça appelle à encore plus. Donc, bonne direction, mais nous voulons plus. Nous voulons plus, surtout sur la question des responsabilités. D'une part, et je pense que beaucoup de collègues en ont parlé dans des médias différents, y compris sur VOA, mais aussi il y a des parties du rôle de la France qui demandent encore un examen attentionné. Nous voulons encore savoir ce qui s'est passé après, parce que je pense qu'il y a eu un effort particulier à démontrer les faits accablants, le rôle accablant de la France, et aussi à congédier l'intention génocidaire. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi il y a eu un effort particulier, une fois que le génocide a commencé, à renforcer le gouvernement génocidaire. Ça ne nous répond toujours pas quels efforts ont été consentis par la France pour réarmer les génocidaires une fois dans les camps voisins du Rwanda. Je me rappelle, j'étais en France à l'époque, j'ai donc suivi avec beaucoup d'attention, y compris des rapports qui avaient été sortis, des observations sur le dépôt des armes en juillet 1994, alors que l'opération turquoise avait eu lieu. Donc le rapport s'arrête dans un des moments les plus intéressants. Pour une personne qui a vécu aussi en France à l'époque, donc entre 91 et 95, ce qui serait aussi important de scruter, à mon sens, c'est la construction du discours de la haine, l'aide à la construction du discours de la haine. Je me rappelle toujours les dépêches de l'AFP qui se terminaient presque sur un refrain en qualifiant le Front patriotique rwandais d'étranger, en faisant toujours référence à l'empire Hima Tutsi et en ethnisant de manière importante toute dépêche. Et vous savez qu'à l'époque, l'AFP nourrissait les autres presses. Donc ça aussi, c'est des choses qui, pour moi, méritent une attention. Je crois que nous ne faisons que commencer.
Monsieur Diallo, votre sentiment par rapport à ce rapport français, est-ce que c'est une page qui est tournée? Est-ce que nous tirons des leçons?
Autorisez-moi d'abord à saluer l'explication, le développement fait par madame depuis Kigali. Cela est important pour comprendre ce qui s'est passé et l'état d'esprit qui prévalait. Well, ce qui s'est passé, je crois qu'il faut, je devrais d'abord dire que si le président Kagame lui-même a estimé que ce rapport est un pas en avant et l'a salué, ce n'est pas moi qui ferai la fine bouche pour dire moins. Mais très honnêtement, je n'ai pas été édifié ou enthousiasmé par ce rapport. Vous savez, la France a la France officielle a cette caractéristique d'avoir une phobie absolue de reconnaître une faute commise. Demander pardon pour la France, c'est une perspective cataclysmique, désastreuse. Alors, il y a même d'exemples dans son histoire qui le prouvent. Et là, elle a été jusqu'à la limite du moment où il fallait dire oui, nous reconnaissons avoir commis une faute indicible, nous demandons pardon. Cela, pour que la France le dise, il faudrait vraiment que le ciel lui tombe sur la tête. Ceci dit, oui, ce rapport est allé là. Monsieur Juppé est allé aussi loin qu'il pouvait aller, ou qu'il voulait aller, mais il ne franchira pas le pas pour reconnaître la faute et demander pardon. Monsieur Hubert Védrine, qui était le secrétaire général à l'Élysée, reste droit dans ses bottes et reste le gardien du temple mitterrandien. En vérité, encore une fois, cela s'est passé. Et j'ai le sentiment que la France, avec ce rapport, espère fermer une page, espère mettre fin au débat sur le génocide au Rwanda et qu'on oublie ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas oublier, on ne doit pas oublier les Rwandais et nous tous, parce que cela peut arriver. Et il ne faut pas beaucoup pour que cela arrive. Éric, vous êtes aux États-Unis, professeur, vous êtes, je crois, aussi aux États-Unis. Mais quand aujourd'hui vous voyez un Américain blanc, dirait-on, qui surgit et pousse par terre une dame ou un homme, parce que simplement cette personne, par le faciès, semble être un Asiatique. Donc les Asiatiques américains sont aujourd'hui harcelés, maltraités, verbalement et physiquement, par le simple fait d'être Asiatique américain. Et pourquoi? Parce qu'on a été président pendant 4 ans et a montré du doigt les Asiatiques. Et même pas les Asiatiques, les Chinois. Donc nous ne sommes pas loin de la catastrophe. Le monde entier, il y a d'autres régions au monde où il suffit d'une petite étincelle pour que les relents ethnicistes ressurgissent et qu'il y ait une sorte de battue contre des personnes du seul fait de leur faciès. Alors faisons attention. Il ne faut jamais cesser de parler de ce qui s'est passé au Rwanda. Et cela, l'Union africaine devrait le mettre dans les lexiques, devrait faire des stages pour tous les journalistes et les faiseurs, les leaders d'opinion, pour qu'on en parle. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il était nécessaire d'insister sur le fait que la France n'est pas allée assez loin et sur le fait qu'on ne doit pas oublier, et parce que, à mon humble avis, nous n'avons pas appris la leçon.
Jean-Pierre, quelles sont, selon vous, les conséquences de ce rapport sur le négationnisme?
Oui, j'aimerais revenir un tout petit peu, je crois, docteur Alice Karekezi et Diallo, ils sont revenus là-dessus.
Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps.
Oui. Donc ce rapport, c'est vrai, il est important, mais nous devrions réaliser, nous rappeler que ce n'est pas le seul, c'est pas la seule source de l'histoire du génocide. Donc il y a beaucoup de sources qui devraient être consultées, donc ça c'est très important. Et pour revenir à la responsabilité de la France, et là je pourrais parler aussi du négationnisme, responsabilité de la France, c'est que cette responsabilité, elle est presque illimitée. Donc elle commence avant le génocide, donc pendant la guerre, donc le soutien qu'elle apporte au régime à Biarimana, deux, pendant le génocide, trois, et après, ou même pendant le génocide, non seulement soutenir les forces qui étaient en présence, n'oubliez pas que le gouvernement qui était ce qu'on appelait le gouvernement de transition, le lien qu'il avait et le lien qu'il avait avec la France et aussi la prestation de serment aussi quand il s'est retrouvé aussi à l'ambassade de France. Donc là, c'est clair. Et même pendant le génocide et vers la fin du génocide, le FPR était la seule force au monde à pouvoir combattre et arrêter le génocide. Et malgré ça, donc, quand il y a eu l'opération turquoise, imaginez-vous qu'à l'époque, donc, la France occupe le un tiers du pays. Et donc, et comme conséquence, c'est dire, nous ne permettons pas à cette force qui est en train d'arrêter le génocide de prendre le pays. Et Alain Juppé était clair. Et à l'époque, il parlait, il dit, nous n'allons pas permettre à une minorité de prendre le pouvoir. Ça signifie, c'est encore un discours ethniste. Donc, relier le Rwanda en termes ethniques. Et donc, pendant ce moment-là, donc, quand ils ont pris un tiers du pays, ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que le FPR, donc, une fois qu'il a pris une grande partie du pays, a déclaré la fin de la guerre.
Mercredi, la France a annoncé l'ouverture d'importantes archives sur le rôle de la France au Rwanda, dont celle de l'ancien président socialiste François Mitterrand et celle de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, pour faire avancer la vérité historique sur le génocide de 94. Alice, je vais vous accorder moins de 30 secondes. Est-ce que vous espérez quelque chose de nouveau à travers l'ouverture de ces archives?
Nous souhaitons la bienvenue à tout effort pour éclairer la vérité, pour éclairer les faits historiques. Mais au-delà de ça, la question que je trouve importante, c'est la question de responsabilité. Nous avons affaire ici à des crimes qui sont imprescriptibles. Et si vous voyez toute la turbulence autour des interventions des personnes comme Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, c'est parce qu'il redoute aussi la question de la responsabilité pénale. Et je pense que il y a plusieurs ripostes au génocide perpétré contre les Tutsis. Aujourd'hui, au centre de cette conversation que nous sommes en train d'avoir, est la question de la responsabilité de l'État français. Mais épuisons la question de la responsabilité de l'État français, tout en sachant que cette question, elle est politique, elle est diplomatique, elle est sociale, mais elle est aussi judiciaire. Il est important aussi d'y ajouter le rôle des mercenaires français qui non seulement ont gravité autour de l'avion qui supposément emmenait l'ex-président Habyarimana au Rwanda, mais aussi le renforcement et la militarisation des camps de réfugiés autour du Rwanda.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci au docteur Alice Moussa-Ouagaga Kalekezi, chercheuse associée auprès du Centre pour la gestion des conflits et professeure à l'Université du Rwanda. Merci, professeur Alice.
Merci beaucoup de m'avoir.
Merci à Ismaël Diallo, activiste burkinabé. Merci beaucoup.
Merci.
Merci au professeur Jean-Pierre Kalekeye, Dickinson College en Pennsylvanie. Merci, Jean-Pierre.
Merci, merci, Eric.
Merci à Lionel Nanila Gahima qui a facilité la mise en œuvre. Eric Manila a aidé à la présentation. Excellente soirée à vous tous. À vous.